Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nos deux indispensables du jour nous ont rejoint. Héloïse Goua pour les séries.
Salut Thomas, bonjour
salut
à tous.
Héloïse. Et Olivier Benkemoun.
Bonjour à
pour
tous.
Le cinéma. Et alors, j'ai la chance ce matin de recevoir l'homme derrière toutes ces répliques cultes.
Mais si c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le pauvre.
Si tu es venu là pour me faire une scène, ton avance, tu peux te la foutre au cul.
Mais t'as pas le droit de me le refuser, pauvre con.
Mais je vais me gêner, espèce de poids tabac.
T'as regardé, sac à merde.
Pas du cul.
Tu pars tout de suite ou je te fais couler en bain.
Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici?
Ta gueule, main sur la tête, le pénis, balance ton nom.
Sponce. Général, Sponce.
Je t'aime, tu es l'homme de ma vie.
Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poirés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit.
Jean-Marie Poiret est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Merci
bonjour
beaucoup d'être là. Vous avez reconnu d'ailleurs les amis tous ces
Il y avait des visiteurs déjà à la
les
fin.
Visiteurs, bien.
Le Père Noël est une ordure.
Bien.
Papy fait de la résistance, non?
Papy fait de la résistance, exactement.
Il m'en manque un, je crois qu'il en manque un.
Vous l'avez vous Jean-Marie Poiret ou pas?
Cornet de bif.
Cornet de bif.
La queue.
Je crois que c'est les hommes préfèrent les grosses, non? C'est pas ça.
Non, c'était Valérie Le Mercier. La première fois que je tourne avec Valérie. Et cette scène où elle était vraiment géniale.
Tous ces films sont signés donc Jean-Marie Poiret. Vous nous en racontez toutes les coulisses dans vos mémoires absolument passionnantes que vous avez intitulées « Rire est une fête », un livre qui vraiment fourmille d'anecdotes. On apprend par exemple que Fabrice Lucchini a failli jouer le rôle de Jean-Pierre, le mari de Béatrice dans Les Visiteurs. Vous le rencontrez, vous réalisez qu'il a appris le script absolument par cœur. Il vous fait tous les rôles, même Béatrice. Hein, il était sensationnel, paraît-il. Mais le problème, c'est qu'il réclamait trop d'argent, c'est ça?
Oui, bah c'est-à-dire que le cinéma c'est quand même une industrie et donc il y a des problèmes de budget souvent.
Ah oui, ouais.
Quand on fait un tour de table pour arriver, en plus c'était assez serré le budget des visiteurs puisque TF1 n'était pas venu dans l'affaire.
Pas grand monde y croyait au
oui,
départ.
Donc, en fait, personne n'y croyait ouais. Et donc on avait Dieu merci FR3 qui est venu à notre secours, mais FR3 c'était pas des budgets formidables. Donc j'avais pas beaucoup de sous. Et Fabrice, qui était vraiment génial, il m'a vraiment chopé pendant ce déjeuner. Parce que d'abord, il est parti ex abrupto, c'est-à-dire on parlait de la vie, de la mort et de la coiffure. Et tout à coup, il est parti dans le texte. J'ai même eu un moment à réaliser. Bon. Il prenait une voix de femme pour faire... Bon, il faisait tout, il connaissait
tout. Il voulait vraiment faire
le cœur,
film.
Oui.
Ouais.
C'est incroyable. Et il était très bon parce que je lui avais dit, c'est pas du tout pour vous. Je suis désolé, vous avez envie de le faire, mais vous êtes totalement extraverti. Le personnage est intimide, dominé par sa femme. Et en fait, bon, souvent les metteurs en scène sont assez cons parce qu'ils ne sont pas capables de voir qu'un acteur est capable de jouer autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Voilà. Maintenant, il a demandé le même salaire que Jean Reno.
Les trois rôles principaux,
voilà,
c'est ça.
Oui, enfin, il m'avait dit les trois rôles principaux, sauf que d'ailleurs. Le Mercier était débutante, elle gagnait beaucoup moins d'argent que les deux vedettes.
Que Reynaud et Clavier. Ouais.
Voilà. Et il m'a dit, mais non, c'est un film à quatre. J'ai dit, écoute, aujourd'hui mon budget est bouclé,
ça
ne changera rien que tu sois là ou pas. Lucchini a une certaine valeur. Hein, il y a des films qui sont montés sur lui. Alors ça, c'est autre chose. On va voir à la télé, on dit, j'ai Fabrice Lucchini. Mais là, vous dites ça à des gens, ils ont très vite compris que vous voulez plus de fric. Et très rapidement, on vous dit, ça n'a aucun intérêt. Voilà.
Et alors, vous ouvrez votre livre sur un autre déjeuner, d'ailleurs, avec Valérie Le Mercier.
Oui, on déjeune beaucoup.
Vous déjeunez beaucoup, j'ai l'impression. Mais le jour où elle refuse de faire Les Visiteurs 2, après avoir beaucoup hésité, hein, elle change trois fois au cours du déjeuner, change trois fois d'avis.
Elle était totalement perdue, d'ailleurs, et elle ne savait pas, elle en avait envie. Moi, j'étais très, très... je sais pas, j'ai pas été assez convaincant, mais en tout cas, j'étais très pressant. Et je lui expliquais à quel point le public l'avait aimé et qu'elle faisait une erreur. Bon, d'ailleurs, je persiste à penser
qu'elle a fait une erreur
parce que, bon, elle a une carrière formidable, elle a un talent fou, donc c'est
Mais elle
c'est
vous a
génial.
Donné une raison pour ça? Pourquoi elle voulait pas faire le 2?
Non, elle m'a dit qu'elle, enfin, elle n'avait pas à me donner des raisons parce que les visiteurs 1 s'est passé d'une façon visiblement pénible pour elle. Ouais. Elle pleurait souvent, elle était mal à l'aise.
Elle s'est pas bien entendue avec Christian Clavier et Jean Reno, dites-vous.
Je ne sais pas.
C'est un peu frais entre eux.
Mais d'abord sur les films. Il y a des moments où ça s'entend très bien, c'est quand les acteurs ont tire-crampette ensemble. Alors là, ça marche très bien. Tout à coup, généralement, ça dure le temps du film. c'est comme les amours de vacances. Bon, alors ça, c'est idéal. Vous avez formidable, ouais. Parce que tout le monde est content. Généralement, ils sont séparés 3 jours après la fin du film. Mais voilà. Mais sinon, il y a quand même souvent des rapports de compétition dans les films. Et puis, d'abord, il faut se concentrer. Et c'est pas forcément l'amitié qu'on croit les tournages.
Et alors, vous nous racontez un truc incroyable dans votre livre, c'est que Valérie Lemercier a refait tous ses dialogues en post-production pour accentuer le trait. Elle voulait aller plus loin dans son rôle. Et vous l'aviez beaucoup poussée, paraît-il, pendant le tournage. C'est ce que vous racontez, en tout cas.
Oui, elle n'a pas refait les dialogues. Elle n'a pas changé le texte.
Non. Mais, elle s'est doublée elle-même. Quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'est passé quelque chose d'étonnant. C'est que quand elle a vu... on fait ce qu'on appelle les post-synchro au cinéma. C'est-à-dire quand les prises ne sont pas bonnes pour des raisons de son. Il y a un camion qui passe, il y a un marteau-piqueur, un truc qui dérange. On est obligé de doubler ce qu'on appelle doubler le texte. Et alors là, pour ça, c'est assez difficile à faire. Il y a un texte qui passe en bas de l'écran et les acteurs doivent lire le texte au moment où ça passe sur une barre pour être synchrone avec les lèvres. Donc c'est très compliqué. Et c'est assez... Il faut le préparer à l'avance. Bon. Et alors, elle voit, évidemment, c'est le moment où généralement les acteurs découvrent le film, parce que c'est par petits bouts, mais c'est bien avant qu'ils voient le film monter. Et là, elle me dit « Ah, elle le trouve pas mal !» Elle se met à rire. Ouais. Et elle me fait « Ah, j'avais pas vu ça comme ça !» En fait, je crois qu'elle a pensé pendant tout le tournage qu'elle tournait un très mauvais film.
C'est ça.
Voilà la vérité, je crois. Ouais. C'est que, d'ailleurs, une fois, elle m'a dit « Mais j'ai l'impression de jouer comme au théâtre ce soir. » Bon, elle trouvait que je la poussais trop, justement. Mm-hmm. Bon. Et puis là, elle a vu... mais elle m'a dit « Elle est très bonne en doublage, en plus. Donc, elle avait très bien amélioré ses répliques. Et elle me dit « Mais j'ai complètement merdé tout. Ça pourrait être beaucoup plus drôle. Ouais. On va refaire tout le film. » Et j'ai dit, c'est pas possible. Excuse-moi, chérie, mais moi, on peut pas faire ça. Il faut que ça se prépare, ça coûte du pognon. Bon. Et donc j'ai dit, non, on peut pas le faire. Et je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais je suis idiot. Donc j'ai appelé l'équipe. Dieu merci, j'étais producteur du film. Donc j'ai dit, est-ce que vous êtes prêt à travailler ce week-end? Ils ont tous dit oui. Et je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, on y va, il n'y a pas de bande rythmo, on y va comme ça, ce qui est raté, je le mets à la poubelle, ce qui est bon, on sera dans le film, et si c'est très très bon, je vais changer le montage pour que tu sois synchrone.
Ah, génial.
Et elle a été démente.
Ah bah ouais.
Parce qu'elle s'est amusée, elle était dans le noir, seule avec elle-même, face à l'écran, et elle s'est mise à aimer le film beaucoup à ce moment-là. J'ai d'ailleurs été surpris quand elle m'a dit qu'elle ne voulait pas faire le 2.
Et le résultat est génial. À l'arrivée, ça fait partie des anecdotes dans ce livre « Rire est une fête » de Jean-Marie Poiré. On continue à en parler dans un instant avec d'autres films cultes, notamment « Le Père Noël est une ordure ». À tout de suite.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h. Et ce matin, Thomas Hill, vous recevez un grand réalisateur, celui qui a bercé nos jeunesses au cinéma, Jean-Marie Poiré.
Chouchou, je te préviens, la prochaine c'est pour toi. Si tu me suis pas, je te tue.
Je préfère mourir de suite que de repartir avec toi, gros.
Mais déconne pas, Josette. Je vais tirer dans la grosse.
Ah, non, mais ça va pas bien. Mais qu'est-ce que je suis au bon Dieu pour tomber dans cette maison de fou, hein. Et pourquoi vous butez sur cette femme? Il y en a d'autres, hein. Je parle pas pour moi, mais t'en es prenez Thérèse, par exemple.
Non, c'est Chouchou, je veux, pas la moche.
Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'aime bien l'écouter en radio comme ça parce qu'on se rend compte à quel point ce sont des acteurs prodigieux quand même, c'est le sens du rythme.
Oui. Ça, c'est un privilège fantastique d'avoir rencontré des acteurs aussi talentueux. Et c'est incroyable de voir vivre tout à coup les répliques parce qu'il y a plein de répliques qui sont en fait relativement banales et qui deviennent géniales. Parce que honnêtement, si vous lisez le texte, c'est cela Ah oui, ça n'a aucun intérêt quand vous lisez un script. Et c'est pour ça d'ailleurs que les producteurs sont très souvent très cons, parce qu'ils sont incapables de lire avec le ton, ils lisent avec leur voix à eux, parce qu'on lit avec sa propre voix.
Ouais.
Et donc, ils lisent, c'est cela, oui. Alors bon, là, c'était une pièce à succès. Donc,
c'est cela, oui. Voilà.
Mais donc, c'est Thierry Lhermitte qui rend génial. Et c'est la même chose pour le hockey. Le hockey est une réplique que je trouve charmante. Je la trouve intellectuelle même. C'est-à-dire que c'était
le hockey de Christian Clavier dans les visiteurs.
Oui, pour moi, c'était
quoi coupé, hein. Parce que votre producteur à l'interview n'aimait même pas du tout ça, il trouvait que ça avait aucun intérêt.
Non, il m'avait dit, on était en retard, il m'avait dit il faut couper quelque chose. Alors j'ai dit, moi, tu sais, je ne m'opère pas quand je vais chez le médecin, chez le dentiste, il me dit, il faut vous arracher une dent, je ne vais pas moi-même. Hein, donc j'ai dit, tu me dis est-ce que tu veux couper, et puis je te dirai si je suis d'accord ou pas, parce que en fait, le vrai producteur, c'était moi, c'était pas du tout à l'interview qui était producteur exécutif. Bon. Donc à la limite, et d'ailleurs, il m'a appelait parfois le boss parce que ça l'agaçait quand je lui disais ça, ça le foutait en rogne. Donc il faisait oui boss, bon. Et donc et puis il le lit tellement mal. Il le lit tellement mal que je me suis dit, mais il n'a pas forcément tort, parce qu'il me dit que vous avez écrit des meilleures répliques quand même que OK, c'est dingue. Bon. j'ai dit, c'est vrai que c'est. Bon, peut-être qu'on peut couper ça. J'ai dit, écoute, oui, je vais réfléchir. Oui, c'est pas impossible qu'on le coupe. Et alors, j'ai eu une chance fantastique, c'est que le dimanche, j'étais travaillé avec ma chef monteuse, et comme on ne tourne pas d'une façon chronologique dans les films, on avait déjà tourné un hockey qui se passait beaucoup plus tard. Et donc je vois la prise et je fais même la gueule, parce que je me méfiais du côté très flatteur des techniciens qui vont généralement trouver bien ce qu'on fait.
Ouais,
c'est très bien. Bon, donc j'ai pris une tête renfrognée et j'ai fait, tu trouves ça marrant toi ça? C'est drôle. Et elle me répond, c'est pas du tout drôle, non. C'est inénarrable. et j'éclate de rire. J'ai fait, ah oui, tu trouves ça très, très inénarrable. Elle m'a dit, j'étais plié en quatre quand j'ai vu les rushs, j'étais plié en quatre. Et c'était ma sensation.
Ouais.
Donc là, j'ai dit, c'est génial. Bon. Et j'ai appelé Terzian, j'ai dit, écoute, voilà, je vais pas du tout couper, on coupera plus tard si ça fonctionne pas, parce que je fais très attention aux réactions du public.
Ouais.
Et c'est pas le cas de beaucoup de gens en France. En Amérique, on vous impose des previews dans lesquels on montre
des tests.
Voilà,
des tests en plus, aujourd'hui.
Maintenant, ça se fait ici, mais à l'époque, moi, je les faisais moi-même. C'est-à-dire que, quitte d'ailleurs à aller chercher. Parfois, il n'y avait pas assez de gens dans la salle. J'allais dans la rue, je disais, vous voulez pas voir un film, venez. J'allais chercher des gens dans la rue.
Bah, quand c'est des visiteurs, c'est chouette.
Ouais, et je mettais des micros pour écouter, pour enregistrer les rires. Parce que, on a un souvenir faux, même des projections. Déjà, mon bouquin de souvenirs est certainement très souvent très faux, parce que c'est très ancien. mais par contre, même déjà à deux jours, trois jours, on peut se gourer. Donc, à l'époque, on y avait encore ce truc qui s'appelait le Walkman. Et donc, je mettais des petites cassettes, et j'écoutais les rires. Et souvent, d'ailleurs, la monteuse disait, non, ça a beaucoup plu. Et j'écoutais, ça n'a pas du tout plu. Regardez ça, ils ont toussé.
Donc, vous modifiez le montage derrière, en fonction des rires. Et alors, il y a un acteur fil rouge dans votre livre, évidemment, c'est votre ami de 30 ans, avec qui vous avez travaillé sur une dizaine de films, c'est Christian Clavier, qui signe d'ailleurs la préface de votre livre. Et alors, lui, il est inoubliable, évidemment, dans ce rôle-là qu'on a entendu tout à l'heure de Katia dans Le Père Noël. Le Père Noël est une ordure aussi, c'est de lui dont je voulais parler. D'ailleurs, vous le comparez. Comme on le fait souvent à De Funès, mais pour dire que Clavier a finalement une palette beaucoup plus large.
Oui, je trouve, Louis, c'est très difficile de comparer les gens. Je pense que Louis est le plus grand acteur de tous les temps, parce que c'est un des rares acteurs qui était...
Louis De Funès.
De Funès était bon dans des... En général, les acteurs sont géniaux dans des chefs-d'œuvre. Ça, c'est la règle. Mais dans les mauvais films, ils sont moyens. Et beaucoup de films de De Funès sont très, très moyens. Les scénarios sont lamentables, souvent. Mais par contre, il transforme tout. Tout est génial. Même s'il lit le bottin, il est drôle. Bon. Mais c'est vrai qu'il jouait toujours la même partition.
C'est ça.
Qui était la sienne, en fait.
Il a inventé
une partition qui était celle de Louis. Alors que Christian Clavier joue des caractères. Il peut jouer un curé, il peut jouer un travesti.
C'est ça.
Donc c'est quand même très large comme tessiture. Il peut jouer Jacouille, il peut jouer Verneuil. C'est vraiment un acteur prodigieux. Et moi, je dois dire que c'est une chance incroyable d'être ami avec quelqu'un. Ben, parce que déjà, vous voyez, c'est compliqué d'obtenir les acteurs pour leur acceptation, parce que souvent, ils ne comprennent pas les films. Et ils comprennent d'autant moins les films, parce que moi, je fais des films terriblement expérimentaux, en fait. Ça fait rire quand je dis ça.
Non, mais c'est vrai que vous passez d'un genre à un autre.
Mais je passe d'un genre à un autre. Je ne fais pratiquement, sauf quand je fais Les Visiteurs 2, 3, 4, 8, 9, mais sinon, je ne fais pas ça.
Fait de la Résistance, oui, c'est très différent du Père Noël est une ordure.
Oui, mais mes meilleurs copains qui arrivent complètement à contre-pied, je fais toujours ça m'amuse pas. J'ai envie d'explorer des terres nouvelles. Ouais, vous voyez, comme j'ai bien parlé, là. et donc, voilà. Et donc, c'est absolument génial d'avoir un acteur qui est généralement trop formidable, parce que c'est Christian Clavier qui m'a donné confiance dans Les Visiteurs. Tout le monde faisait tellement la gueule, c'est-à-dire que, vous savez, vous venez un soir à dîner, vous racontez une blague, elle fait pas rire, bon. Éventuellement, si vous y tenez vraiment, vous essayez le lendemain. Deux râteaux de suite, vous arrêtez, vous dites la blague est pas bonne. Donc, quand vous allez voir, mon métier, c'est d'aller voir des gens qui distribuent de l'argent, qui vous permettent de faire les films. Quand ils font la gueule, s'ils font tous la gueule, il y a un moment, on se dit, bon, ben, je me suis peut-être trompé.
Tant pis, ouais,
bon.
Je lâche l'affaire. Ouais.
Mais quand je l'ai raconté à Christian, il a éclaté de rire. Il m'a dit, ah, génial, j'ai envie de faire ça, c'est formidable. Il était emballé. Et emballé qu'on le fasse en vieux français. Tout ça lui plaisait beaucoup. Et moi, honnêtement, entre l'expertise d'un acteur comique comme Christian Clavier et celle de certains décideurs qui ont quand même des têtes de notaire, vous voyez, je veux dire, bon,
le choix est vite fait. Oui. Rire est une fête de Jean-Marie Poiré, c'est disponible aux éditions Michel Lafon et c'est vraiment un régal. On va continuer à en parler, puis dans un instant, on va retrouver Héloïse Goua pour un premier indispensable. On parle de quoi ce matin, Héloïse ?
De la série événement de Prime, ça s'appelle Fallout. Je sais pas trop si j'ai aimé, mais en tout cas, il faut en parler.
Je sais pas trop si j'ai aimé non plus. J'ai regardé un peu.
Bah voilà,
on va jouer au trop ou rien avec les auditeurs.
Alors là, vous allez aimer, hein, ça c'est sûr c'est certain, parce que vous allez repartir forcément avec de beaux cadeaux. On vous offre un magnifique lot de bandes dessinées 13 Mystery. C'est la saga qui fête ses 40 ans cette année aux éditions d'Argo. Vous allez repartir les bras chargés de cadeaux. Pour cela, il faut quand même s'inscrire. Alors vous envoyez un SMS, MEDIAS, M-E-D-I-A-S, au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Et après, nous, on s'occupe de tout. On vous rappelle et on joue ensemble avant 11h. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas, le réalisateur Jean-Marie Poiré.
Et on va parler d'une série avec Héloïse Goua maintenant. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une nouvelle série post-apocalyptique.
Ça, c'est l'apocalypse. On est au début des années 60 et une guerre mondiale provoque de gigantesques explosions nucléaires. Toute la planète est dévastée. La Terre se retrouve saturée de radiation. Voilà le démarrage de Fallout, la nouvelle série de Lisa Joy et Jonathan Nolan. Jonathan, c'est le frère de Christopher Nolan, mais ce duo est déjà à l'origine de l'excellente série Westworld, vous vous rappelez, avec Anthony Hopkins. Fallout, c'est déjà un phénomène dans le monde entier. Hein. C'est l'une des séries les plus regardées de l'histoire de Prime. Pour ça que je l'ai regardé pour vous. Alors, comme je vous disais, j'ai adoré les premiers épisodes qui nous en mettent plein les mirettes. Les acteurs sont formidables, les décors aussi. C'est une très belle production. Tout de même, 153 millions de dollars.
C'est beau.
Plutôt bien utilisé, hein. Vous êtes d'accord avec moi, Thomas. Mais j'ai un peu décroché à partir de l'épisode 3. J'ai trouvé que l'intrigue.
Moi, j'ai décroché à la fin de l'épisode 1, moi.
Ah oui, vous êtes moins patient. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu les seuls, Thomas, parce que les critiques sont très très bonnes de la série, les critiques publiques. J'ai décroché parce que j'ai trouvé que l'intrigue partait dans tous les sens et qu'il y avait un peu trop de boum boum et de pan pan.
Et alors, qu'est-ce qui se passe sur Terre après ces explosions nucléaires ?
Alors déjà, bonne nouvelle, pas mal d'humains ont survécu. On suit donc plusieurs personnages. Deux siècles après l'apocalypse, il y a d'abord Lucy, une jeune femme qui vit dans un abri souterrain, mais qui décide de s'aventurer à la surface à ses risques et périls.
Si vous tenez à rester ici, alors il faudra vous adapter.
On suit aussi Cooper, un cow-boy chasseur de primes qui résiste à tout, même aux balles qu'on lui tire dessus. Alors il a pas de nez et c'est un très vieux monsieur de près de 300 ans. En fait, c'est une goule, c'est-à-dire un humain transgénique puissant, capable de survivre à la radioactivité. Bref, n'essayez pas de casser la goule.
C'est bien ce qu'on dit. Nos hôtes, les cow-boys. On vit au jour le jour.
Il y a beaucoup de boum boum pam pam. C'est vrai que ça s'entend.
Et là, la réplique, ça fait un peu hasta la vista, baby. Bon, vous ajoutez à ces personnages une organisation militariste qui récupère les survivants, un scientifique un peu fou, des monstres baveux dégoûtants, et vous obtenez une intrigue aux multiples tiroirs qui a embrouillé ma tête de linotte qui ne comprenait plus rien. Mais vraiment, faites-vous votre propre avis, parce que je sais que cette série plaît beaucoup aux fans de science-fiction un peu timbrée. Et je pense aussi que je n'avais pas toutes les références.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Fallout, c'est d'abord un jeu vidéo.
Ah, oui, bah voilà.
Un jeu vidéo culte créé en 1997 qui a fait vibrer des milliers de gamers. D'ailleurs, le dernier opus de ce jeu, Fallout 4, est devenu numéro 1 des ventes en Europe depuis la diffusion de la série. Des ventes multipliées par 7500%. Je crois qu'on peut dire que c'est un carton.
C'est une réussite.
Carton plein aussi, je vous le disais, pour cette série qui plaît à la plupart des joueurs, y compris aux créateurs du jeu qui a adoré cette adaptation. La musique contraste
mais
beaucoup.
Mais ça va pas du tout avec la musique.
Et c'est ça qui est drôle.
J'espère qu'on va l'entendre en version originale parce que les doublages, c'est terrible.
C'est le cata. Totalement.
Mais c'est terrible parce que les acteurs de doublage donnent des intentions dans tout.
Ouais, c'est vrai.
Ils prennent toujours des voix pour faire « ça va, toi, ce matin ». Tout est extra exagéré.
C'est pas toujours des grands acteurs, effectivement.
Je veux juste ajouter parce que ici on voit pas l'esthétique, mais que l'esthétique western rétro futuriste est assez folle. Il y a aussi des scènes joyeusement trash à la Tarantino et une saison 2 a déjà été signée.
Ah oui.
Donc ça marche. 8 épisodes qui sont à retrouver sur Prime, la plateforme d'Amazon. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Où est-ce qu'il en est, vous, votre projet de mini-série au bombeur avec Christian Clavier?
Pour l'instant, c'est un peu en stand-by, j'ai l'impression. Je pense que le studio Canal français est très emballé. Les Américains, un peu moins. Parce que c'est compliqué aujourd'hui, parce qu'il faut du financement américain. Et alors, vous leur parlez d'acteurs très connus comme Christian Clavier. Et sa femme, qui c'est
On peut leur parler de Jean Reno.
Jean Reno, ils connaissent.
Voilà.
Oui, pour eux, c'est un casino. Clouvière, ils ne savent pas du tout qui c'est. Et mon nom, on ne peut pas le prononcer en anglais.
Jean-Marie Poiret. On vous retrouve dans un instant après le journal permanent sur Europe 1. Nous serons avec un invité inattendu, spécialement là pour vous, un certain Thibaut Mortecouille.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez le réalisateur Jean-Marie Poiret.
Et alors c'est le moment, Jean-Marie, de retrouver notre invité inattendu. Et comme beaucoup d'entre nous, il a été biberonné avec vos films, peut-être un peu trop d'ailleurs. Il s'appelle Thibaut Mortecouille. Oui. Bonjour Thibaut.
Ouais, bonjour à tous, bonjour Thomas. Alors je suis tellement content et impressionné de rencontrer celui dont je souffre.
Dont vous souffrez, c'est-à-dire
ouais, c'est-à-dire je souffre du syndrome Jean-Marie de la Poirette. J'ai tellement vu ces films que j'ai des pulsions qui me font ressortir des répliques cultes à n'importe quel moment. C'est assez handicapant et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Qu'on a fendu un beau matin. Qu'on a fendu avec ses tripes.
Pardon, je suis désolé. C'est comme ça, ça sort tout seul.
Mais j'imagine qu'au quotidien, ça doit vous mettre dans des situations parfois assez inconfortables.
Bourse molle.
Pardon Thibaut, c'est un peu.
Non, je parlais pas à vous Thomas, ouais. Je me permettrai pas, on n'est pas assez intime. Non, c'est une réplique de Jacouille, évidemment, Jacouille la fripouille dans Les Visiteurs.
Ah, d'accord, vous me rassurez.
Ouais. Rassurez-vous, Madame Bourdel, c'est français, c'est la police française. Oh, j'en peux plus, pardon. Papy fait de la résistance, sorti le 26 octobre 83.
Ah oui, vous êtes vraiment incollable. Hein. Ouais. Alors vous avez vu combien de fois les films de Jean-Marie Poiret?
Ah bah c'est simple, je les ai tous vus plein de fois, mes deux préférés, c'est Les Visiteurs que j'ai vu 2370 fois.
Pas mal.
Et le Père Noël est une ordure environ 1500 fois. Ah ouais. En fait, j'alterne un soir sur deux à la maison.
Ah ouais. Ça doit pas être facile pour votre femme, le programme télé, il est quand même un peu restreint là.
C'est cela, oui. Le plus dur,
c'est pour mes enfants.
Pourquoi ça?
La grande, je lui ai donné un nom composé, il s'appelle Godefroy Le Hardy, et ma fille Zézette, comme ZZ et Pouzix. Ouais. Sympa, je peux vous dire qu'il passe pas inaperçu à l'école, hein, parce que le petit, je lui ai fait la même coupe au bol que Jean Reno dans Les Visiteurs. Et la petite, son cartable, c'est un caddie qu'on a piqué chez Monoprix. Donc ouais, quand elle arrive, ça fout un bordel dans la cour d'école. C'est sympa.
C'est complètement dingue.
Dingue. Oh non, mais me chauffez pas aussi, Thomas, sinon on va pas y arriver.
Ok.
Ah non, mais vous voyez, vous continuez.
Désolé, Thibaut. Alors, Jean-Marie et ses films ont donc eu beaucoup d'impact hein, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle aussi, je crois.
Ben oui, deux licenciements en deux mois, Jean-Marie. Bon, bah, le premier, c'est quand ma patronne m'a donné une pile de documents à traiter, et là, c'est sorti tout seul. Je lui balance un merci, la gueuse, tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Ouais. Alors, forcément, elle n'a pas apprécié. Je suis monté directement récupérer mon chèque à la compta. Ouais.
D'accord, et le deuxième licenciement alors?
Non, je peux pas vous le dire. Là. Il est 10h du matin, il y a peut-être des enfants qui écoutent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma patronne s'appelait Thérèse. Et que, bon, il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait Thérèse. Voilà. Et ce monsieur, d'accord, c'est moi, j'ai eu une pulsion, je suis désolé. Voilà.
Et alors, ces pulsions, ça vous arrive plutôt le jour ou la nuit?
Jour.
Ah, d'accord.
Ouais. Nuit. Jour, nuit.
On l'a perdu, Thibaut. Ouais. Oh là là. Alors, pour finir, vous voulez dire un petit mot peut-être à Jean-Marie?
Ben oui, j'aimerais simplement vous dire merci, Jean-Marie, pour tous ces films cultes qu'on se transmet de génération en génération et qui traversent les couloirs du temps. Vos films, finalement, c'est l'inverse des Doobie Chou, c'est pas de la merde.
Oh, merci Thibaut Mortecouille.
Merci. Oh là, excusez-moi monsieur Hill, vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin? Restez bien au fond du fauteuil. Hein.
Merci Thibaut Mortecouille, bravo. Et surtout bravo Pierre-Antoine Damcourt. Magnifique.
Allez, c'est l'heure de jouer sur Europe 1.
C'est l'heure de jouer au 3 ou rien, 3 bonnes réponses, ou sinon, vous ne gagnez rien.
Et ce matin, vous jouez pour tenter de remporter les derniers tomes de la bande dessinée 13 Mystery. On vous offre hein, vraiment le package, le lot pour compléter cette très belle collection. Dedans, il y a Traquenard et Sentiment, oui, qui est l'un des tomes qui est disponible aux éditions d'Argos en partenariat avec Europe 1. Intrigue, suspense, vous allez adorer cette saga culte qui fête cette année ses 40 ans.
Et nous accueillons Philippe au téléphone. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour l'équipe.
Bienvenue dans Culture Média, je vous présente Jean-Marie Poiret, vous avez vu forcément tous ses films.
Très connu, bien sûr.
Bien sûr. Est-ce que vous avez un film préféré parmi tous ceux qu'on a cités, les Visiteurs, le Père Noël?
J'aime bien Les Visiteurs parce que c'est un côté décalé avec ce qui se passait à l'époque et chez nous. Ouais. Bon, voilà, C'est pas mal.
C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Bon, et alors j'ai 3 extraits sonores pour vous, Philippe. Vous allez entendre à la suite un chanteur, un extrait de film et un générique télé. Vous aurez une minute maximum pour me donner vos réponses. C'est parti. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques.
Quelle est la proportion d'hommes et de femmes qui vivent en Poitou-Charentes? En pourcentage, bien sûr.
Ah oui.
Je sais pas, enfin peut-être.
Je vais reformuler. Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo, l'organisation?
Ah oui.
C'est plus lui. Il reste. Oui, c'est vrai que c'est plus lui. Mais...
Alors, Philippe, je vous écoute. C'est parti, une minute.
Je dirais peut-être le chanteur Gérard Blanc.
Non, attendez, vous allez trop vite.
C'est pas Gérard, c'est pas Blanc.
C'est le fils du taulier.
Ouais. Et figurez-vous qu'il sera notre invité demain.
David Hallyday. David Hallyday, c'est ça.
Mais on ressemble toujours à Gérard Blanc.
Ouais. On se ressemble énormément, effectivement.
Ouais. Et je pense aussi, question pour un champion.
Bien joué.
Ah oui. Et le film.
Et après, par contre, au milieu, le film.
Une colo.
Avec Omar Sy.
Une colo rouve.
Nicolo,
ouais.
Avec Omar Sy.
Et Jean-Paul Rouve.
Vous l'avez, vous, Jean-Marie Poiret, ou pas?
Jean-Paul Rouve,
mais.
C'est réalisé par Nakache et Toledano.
C'est un super film.
Ouais, d'accord, mais.
Une comédie très
drôle.
Avec beaucoup de bonheur dedans.
Ouais,
on peut le dire.
C'est... La comédie du bonheur, non?
Non, attendez. Quand on est en colo, on passe vraiment des super moments. Donc, c'est des.
Les vacances.
Par exemple, aujourd'hui, on est jeudi, c'est un. De la semaine.
Aïe, c'est trop tard. Je suis désolé, Philippe. C'était Nos Jours Heureux, le titre qu'on cherchait.
Okay, c'est difficile
à faire
trouver.
Déjà, mon jour heureux, c'est aujourd'hui d'être particulier avec vous. Hein, voilà.
C'est sympa, Philippe. Ah, non, merci.
Mais, On est en année olympique, comme disait Pierre de Coubertin. L'essentiel, le plus important, c'est de participer. Voilà.
Absolument. Mais alors vraiment, on aimerait que vous gagniez un jour. Donc n'hésitez pas à rappeler quand
ouais,
vous le souhaitez.
Oui, c'est gentil.
Et avec plaisir.
Bonne continuation à l'équipe, à la mission. Et puis voilà.
Et bah, c'est adorable. Merci Philippe. À très bientôt.
Ça aurait été plus facile avec OK, hein, quand même.
Mais on a été trop dur aujourd'hui. on va
Philippe,
simplifier ça.
Vous pouvez vous réinscrire. Et vous aussi, vous pouvez tenter votre chance en envoyant, bien sûr, Média par SMS EDIAS au 739-21, deux fois 75 centimes plus coût du SMS.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de Culture Média. On va continuer à parler cinéma avec Olivier Benkemoun.
Oui, vous allez découvrir le biopic. Enfin, je vais essayer de vous parler du biopic d'Amy Winehouse, qui est sorti hier.
Très bien, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez le réalisateur Jean-Marie Poiré qui se livre dans cette autobiographie Rire est une fête parue chez Michel Lafon.
Qu'est-ce qu'on entend là, Jean-Marie Poiré ?
Mais là, on entend un chanteur qui n'a pas vraiment percé. Voilà, mais que
Martin Dune,
oui,
c'est ça ?
Martin Dune, oui. Ouais. On peut le voir sur la chaîne YouTube qui s'appelle The Martin Dune Hotel.
Ouais.
Il faut pas mettre d'accent à hôtel, c'est tout.
Sweet Face de The Frenchies. Et The Frenchies, c'était votre groupe. C'est donc Jean-Marie Poiré qu'on est en train d'entendre.
C'est vous, Martin Dune ?
C'est incroyable.
Quelle année ?
Incroyable.
C'est 73. J'étais chanteur pendant deux ans, 73, 74.
Et c'est pas mal du tout, hein.
Mais oui,
franchement, c'est
bien.
Très sympa. Hein.
Vachement bien.
Mais vous avez jamais fait un petit caméo dans un film en train de jouer, en train de, chanter
dans, oui, ah. Je chante dans un film de Pires qui s'appelle L'Agression, avec Claude Brasseur et Catherine Deneuve,
ouais.
Et Trintignant. Là, j'ai un très petit rôle. Je chante dans une boîte de nuit. J'ai essayé de faire ça et puis ça n'a pas marché, voilà.
Ouais, bah autant mieux que ça n'ait pas marché parce que sinon on n'aurait pas eu tous ces merveilleux films ensuite. On va continuer d'ailleurs à parler de musique et de cinéma avec Olivier Benkemoun puisque Amy Winehouse revit cette semaine grâce au cinéma.
Ouais, il y a un biopic qui lui est consacré. Je ne sais pas si vous avez fait des biopics. C'est un genre un peu
non,
un peu
non, jamais. Non, non, jamais.
Bon. Donc, géniale chanteuse britannique qui aurait eu cette année 40 ans. Amy Winehouse s'est éteinte des suites d'une surconsommation d'alcool le 23 juillet 2011.
Je préfère te prévenir, je suis pas une Spice Girl.
Voilà, vous êtes prévenus. L'une des plus grandes voix de la soul, partie à 27 ans, elle manque, évidemment. Ce biopic démarre lorsqu'elle a 17 ans, à la fin de son adolescence. Famille juive, père très important pour elle, chauffeur de taxi. Une famille où l'on chante beaucoup et elle a une voix évidemment exceptionnelle. On la repère, un label va la faire signer, très jeune, très rebelle. Elle fait pas du tout ce qu'on lui demande, mais tout le monde le sait. Dès son premier album, elle va devenir une super star. Elle ne va pas changer de quartier, ni de mode de vie jusqu'au jour où dans un pub, elle tombe raide dingue d'un très beau garçon, sauf que ce garçon est aussi un modèle d'autodestruction.
Bonne chance, Amy.
Tu crèves toujours pour les bad boys.
Alors avant Blake Felder Civil, elle fumait de l'herbe, lui va l'emmener vers des choses plus dures et puis il y aura les tromperies, les jalousies, les je te déteste, les je t'aime, les bagarres. Le film est très focus là-dessus et surtout les paparazzis qui ont traqué le couple. La traque d'Amy Winehouse par la presse britannique qui passe son temps sous ses fenêtres et les soirées de défonce occupe énormément de place dans le film, trop d'ailleurs, hein, très franchement. En fait c'est trop centré là-dessus, je trouve. Le reste est consacré au texte de son deuxième album qui parle de quoi ? Bah de la défonce, des relations toxiques, passionnelles, violentes qui ont marqué donc ce couple.
J'ai rencontré quelqu'un.
Tu finiras par te tirer avec un mec célèbre.
T'es mon âme ! T'es ma raison d'être ! Je t'aime !
Alors le film s'appelle Back to Black, titre qui fait référence au deuxième album d'Amy Winehouse, qui a remporté 5 Grammy, qui a vendu 16 millions d'exemplaires de son deuxième album. Une chose qui est racontée dans le film, qui est assez peu connue du grand public, c'est sa relation fusionnelle avec sa grand-mère, qui lui a donné le goût des chignons, des choucroutes, des looks de pin-up d'années 50. Et puis il faut saluer l'incroyable performance de cette jeune comédienne britannique de 27 ans, Marisa Abella, qui reprend dans sa voix toutes ses chansons.
Elle a une super voix, cette actrice.
Bah oui.
Est-ce qu'elle lui ressemble beaucoup dans le film ?
Oui, le look, etc. Les... Oui. Enfin, le problème du film, il n'est pas là. Le film, c'est qu'il n'est pas assez centré sur la construction des textes, de l'album, etc. C'est vraiment...
C'est people,
non, mais c'est la défense, c'est les paparazzis. C'est vraiment une vision britannique, en fait, de la vie d'Amy Winehouse qui a marqué les journaux, les tabloïds anglais, en fait, en vérité. Et c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir, en réalité.
C'est intéressant parce que juste avant, là, pendant la publicité, je demandais à Jean-Marie Poiret s'il avait déjà fait un biopic et il me dit non, parce que souvent, justement, on est sur les faces
trop dramatiques. Même quand c'est talentueux, par exemple, mon ami Sylvie Tessude, qui était génial dans Sagan, mais on voit qu'une femme détruite. Sagan est une des femmes les plus drôles que j'ai connues. Moi, j'ai pleuré de rire avec Françoise Sagan. Piaf était... moi, j'ai pas connu Piaf, mais ma maman, très bien, elle disait, j'ai jamais vu quelqu'un rire autant. Donc, on vous montre toujours la face pathétique et les problèmes des gens. En vérité, c'est quand même vu par, je dirais, la sale presse, vous voyez, celle d'autrefois, de la presse France Dimanche, qui raconte que les travers des gens et qui veut faire du scandale, en fait, la presse a un scandale, voilà.
Bon, et c'est exactement ce qui se passe en réalité dans ce film, très concentré sur Blake, sur celui qui est considéré par les Anglais comme le destructeur total de Amy Winehouse. Il a vu le film, il a pas vu le même film que moi, réalité. Il dit ouais, je sais pas. Il a répondu à une interview, il a dit la réalisatrice a pensé qu'il devait y avoir un peu plus dans cette relation qu'un simple consommateur drogué tel qu'on m'a dépeint ou quelqu'un qui menait sinistrement Amy vers la dépendance. Ce qui n'était pas le cas, il l'a quand même mis à l'héroïne, donc on n'a pas vu tout à fait le même film.
Faites-nous votre avis en allant voir ce film Back to Black qui est dans toutes les salles depuis hier.
Juste pour écouter les musiques, peut-être, ça vaut le coup, peut-être, juste pour aller écouter du Amy.
C'est formidable.
Europe 1.
Et ce sont déjà les dernières minutes de Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité Thomas le réalisateur Jean-Marie Poiret.
Et alors il y a un film dont on n'a pas encore parlé Jean-Marie et qui a marqué un tournant pour vous, c'est Mes meilleurs copains avec Lanvin, Daroussin, Bacri, Clavier avec qui vous avez écrit d'ailleurs le scénario une fois de plus. Et là pour la première fois vous êtes tous les deux coproducteurs du film, mais pour la première fois de votre carrière aussi vous connaissez le bide. Ça n'a pas du tout fonctionné en salle. Alors qu'après, ça a été un immense succès à la télévision, une fois de plus. Mais là, du jour au lendemain, vous vous sentez comme un pestiféré du cinéma. Ça a été très dur.
Oui, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait des tas de gens qui m'appelaient. Comment vas-tu, mon chéri? On se voit quand, etc. Et là, brusquement, j'ai vu quelqu'un dans une générale de théâtre qui, de loin, m'a fait... On se téléphone.
Ouais.
Comme ça. Donc, j'ai hésité à changer de métier. Parce que vraiment, je pouvais plus même payer mon loyer.
C'est bon. Ça, vous étiez
fauché.
J'ai
d'ailleurs vendu mes meilleurs copains pour une somme dérisoire.
Pour payer votre loyer.
Pour payer mon loyer.
Et depuis, il passe tout le temps aussi à la télévision.
Vous auriez touché. Ça a fait ça dépasser les 29 millions de spectateurs à la télé.
Et vous ne touchez rien là-dessus.
Enfin, maintenant, oui, parce que j'ai quand même récupéré les droits au bout d'un moment. Dieu merci, les droits ne sont pas pour toujours. Donc, à un moment donné, on a dit on va renouveler les droits et j'ai pu gagner un peu d'argent avec ce film qui vraiment nous avait, parce que le producteur avait été très cruel, j'avais dit je voudrais coproduire, j'avais emmené Clavier avec moi dans cette aventure et il a dit mais vous voulez coproduire, mais vous amenez quoi, vous amenez combien? Ben notre scénario. Il a dit mais votre scénario il vaut peanuts. Non. Donc en fait on a fait le film, j'ai évidemment donné le scénario mais j'ai travaillé comme metteur en scène à l'œil, et Clavier, son prestation d'acteur était gratuite.
Ouais.
Donc, évidemment, quand le film ne marche pas, on se retrouve le bec dans l'eau, quoi.
Et puis, alors, vous avez tourné un film aussi avec Gérard Depardieu, évidemment, Les Anges Gardiens. Vous dressez d'ailleurs son portrait dans votre livre. Vous décrivez un homme qui est dans les extrêmes, voilà, qui peut être tout à fait charmant, qui joue magnifiquement bien, mais qui est aussi un brigand.
C'est un voyou des rues, et c'est en même temps un génie comme acteur. Ouais.
Et il va même voler des meubles sur les tournages, parfois.
Oui,
c'est quand même incroyable, ça.
Non, parce qu'un matin, j'arrive, je vois des gens qui gueulent, et on dit, mais c'est le film d'à côté, ils disent qu'on a piqué, donc je les envoie bouler, je dis, qu'est-ce que j'ai besoin de vos meubles, j'ai pas besoin de vos meubles, pourquoi voulez-vous qu'on les pique? Puis il y avait un machinot qui me faisait signe, comme ça, venez, puis il me dit, monsieur Poiret, il faut que je vous parle. En fait, il me dit, c'est monsieur Depardieu, c'est un camion qui est venu ce matin, ils ont embarqué tous les meubles. Je dis, c'est pas vrai, il me dit. Alors je fonce dans la loge de Gérard, je lui dis, mais t'as piqué les meubles du film d'à côté? Et il me fait, c'est pas les tiens. Je dis non, c'est le film d'à côté. Ah oh, merde, alors il prend son portable. Et les gars, il faut revenir. Bon. Mais je lui dis, si j'ai bien compris,
ça te dérangeait pas de me piquer mes meubles.
Et il a ri. Il a fait.
Ça le faisait marrer. Hein.
Oui, parce qu'on lui pardonne tout. Il a tellement de charme. Mais enfin, c'est quand même un brigand. Oui.
Ouais, vous racontez aussi qu'il lui arrive de coller son texte sur le torse de ses partenaires. Hein. Ça lui évitait d'apprendre ses répliques.
Non, il joue avec une oreillette.
Ouais, il joue avec une oreillette, absolument. Et puis, vous dites aussi que les femmes sont pas toujours à l'aise avec lui, hein, notamment les filles du Crazy Horse qui se méfiaient beaucoup de lui. Elles étaient dans.
Personnellement, je ne veux pas rentrer dans la polémique parce que j'ai beaucoup de respect à la fois pour les victimes et aussi pour le présumé coupable. Je ne veux pas me mêler de ça. Je n'ai jamais vu Gérard faire. Il a la maladie de la Tourette. Hein, il peut pas s'empêcher de sortir des obscénités.
Oui, quand même. À l'époque.
Oui, ça l'amuse. Ouais. Ça l'amuse. Il adore. Bon, enfin, moi, je m'en fiche. J'ai pas de. Je ne suis pas du tout pudibond. Ouais. Et ça m'amuserait plutôt. Je veux dire, c'est incongru et brutal. Je ne l'ai jamais vu avoir le moindre geste déplacé. Et pourtant, il y avait. C'était un tournage avec un nombre de jolies filles qui étaient extraordinaires. Parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas que le Crazy Horse qui sont des filles très très bien élevées. On croirait le couvent des oiseaux. Mais par contre, il y avait quand même beaucoup de belles pin-up sur le film.
Eh ben, lisez ce livre de Jean-Marie Poiret, Rire est une fête. C'est disponible aux éditions Michel Lafond. J'aurais pu vous garder 3 heures avec moi, Jean-Marie, parce que j'avais encore énormément de questions à vous poser, mais on arrive au bout de cette émission. J'espère qu'on se reverra parce que vraiment, vous m'avez régalé.
Merci pour
avec
votre accueil.
Avec ce livre. C'était un bonheur.
Merci Jean-Marie Poiret. Demain, à votre place dans Culture Média, nous accueillerons David Hallyday qui sort prochainement un album qui va lier les œuvres de son père aux siennes. Un très très beau duo en perspective.
Et puis dans la première partie, nous serons avec l'animateur Christophe Beaugrand pour parler des coulisses du retour de Secret Story.
Et vous pouvez réagir dès maintenant, laissez vos questions, vos réactions à nos invités demain, David Hallyday et Christophe Beaugrand au 01 80 20 39 21.
Et Pascal Pro est avec nous. Bonjour Pascal. C'est génial. Elle est venue. Elle est là. On a la mascotte. C'est Sochaux.
Je ne ferai pas un deuxième enfant hein, avec la mascotte. Hein.
Je précise évidemment pour les auditeurs d'Europe 1 qu'hier nous avons parlé d'Anissa qui a longtemps commenté les matchs de foot pour le FC Sochaux. Et elle était amoureuse de la mascotte du FC Sochaux.
Bonjour.
Donc,
c'est monsieur Boubou.
Mais oui. Elle est sous le charme.
Bien sûr.
Donc notre ami Olivier qui a toujours beaucoup d'idées, qui est très inventif, qui serait formidable dans les films de Jean-Marie Poiret, à mon avis.
Est-ce que vous avez trouvé ça, Olivier?
Ah, j'ai fait tout le tour de Paris, et surtout pour les petits drapeaux, bon, que je vous ai volé.
Non, mais Pascal.
Oui, non, mais on aime faire des surprises.
Alors, déjà, c'est une surprise qui me touche beaucoup. J'ai l'impression de revivre quelque chose, et ça, c'est très émouvant. Et vous êtes pas mal en mascotte, ça, je dois bien le dire, Olivier. Pascal. Vous ne succomberiez pas, vous?
Bien sûr que si, moi je suis sorti avec de nombreuses mascottes. C'était un fétichisme personnel. Dès qu'il y avait, je voyais, j'étais très mascotte. Hein. Bien évidemment.
Non, mais attendez. Non. C'est le Sochalion, il s'appelle Sochalion. Hein, il a un nom, bien sûr. Sochalion.
Sochaux. Moi je suis allé très souvent au stade de Sochaux. Le stade Bonal, ça dépend bien sûr, où il y avait la plus belle pelouse de France quasiment à l'époque, avec des joueurs comme France.
Si vous voulez venir, moi j'y retourne. Là, je vais faire le dernier match Sochaux-Versailles le 18 mai. Donc on peut y aller tous ensemble.
Il y a de la neige.
Non, là ça a fondu, mais c'est vrai qu'il y en avait il n'y a pas longtemps. En ce moment.